nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Depuis les années 80, à la faveur de la découverte en 1977 de ces textes manuscrits, dans les sous-sols de ce qui était le siège de l'Institut de psychologie de Genève quand elle y enseignait dans les années 20, de nombreux ouvrages ont rendu justice à Sabina Spielrein du rôle important qu'elle joua dans l'histoire de la psychanalyse. Auparavant cantonnée aux notes de bas de page des publications de Freud et de Jung, plus tard passée sous silence par Lacan, le nom de Sabina Spielrein avait été comme effacé de la carte psychanalytique, alors que ses travaux n'avaient pourtant pas manqué d'inspirer des points cruciaux de l'œuvre de ces trois figures. Patiente hystérique de Jung, avec lequel elle vécut la passion amoureuse que l'on sait, au centre de la relation conflictuelle entre Jung et Freud, les récits de la vie de Sabina Spielrein en auront parfois sursouligné les épisodes romanesques au détriment de son existence de femme médecin, psychiatre et psychanalyste dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, dont l'apport théorique considérable influença notamment Mélanie Klein, Anna Freud, Jean Piaget et Donald Winnicott. En 1997, Francesca Piolo racontait aux auditeurs de France Culture l'histoire de Sabina Spielrein, née à Rostov-sur-le-Don en 1885 et morte dans cette même ville dans l'horreur du massacre par les nazis de sa population juive en 1942, au cours duquel elle fut assassinée avec ses deux filles. Une vie, une œuvre, Sabina Spielrein, une émission diffusée la première fois le 10 juillet 1997 sur France Culture.
Entre Jung et Freud, Sabina Spielrein, première femme psychanalyste, 1885-1941. Francesca Piolo, Isabelle Huel.
Journal, 12 juin 1909. Première surprise. Je reçus alors deux lettres sèches et brèves du docteur Jung. Dans l'une, il m'annonçait qu'il serait en voyage le vendredi, notre jour de rendez-vous, car il trouvait mieux que nous ne nous voyions pas ce vendredi-là. Ainsi, la douloureuse affaire se résoudra mieux. Cette tempête fut vite calmée au sein de cette nature si merveilleusement belle et j'écrivis au docteur Jung. Amour propre, l'amour se situe plus haut. Je vous pardonne car, malgré tout, je vous aime. De pouvoir pardonner satisfait également l'amour propre. Allez, jouissez de la vie où vous voulez, comme vous voulez.
Mon expérience médicale, aussi bien que ma vie personnelle, m'ont inlassablement remis en face du mystère de l'amour. Et je n'ai jamais été capable d'y apporter une réponse valable. Il y va ici de ce qu'il y a de plus grand et de plus petit, de ce qu'il y a de plus éloigné et plus proche, de ce qu'il y a de plus élevé et de plus bas. Et jamais l'un de ces termes ne peut être prononcé sans celui qui est son opposé. Jung.
Journal 1909. C'est ainsi qu'apparut Siegfried, qui devait donner naissance au plus grand génie, puisque le docteur Jung m'apparaissait en rêve comme descendant des dieux, et que moi-même, depuis l'enfance déjà, j'avais l'intuition de n'être pas faite pour un destin médiocre.
« 24 juin 1909, à Sabina Spielrein. Bien cher collègue, j'ai reçu aujourd'hui du docteur Jung lui-même des éclaircissements en ce qui concerne l'affaire pour laquelle vous vouliez venir me voir ici. Et je constate que j'avais correctement deviné une partie du problème et que j'en avais reconstruit de manière erronée et à votre désavantage d'autres aspects. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais mon erreur répond tout à fait à mon respect des femmes. » De même que le fait que la faute incombe ici à l'homme et non à vous, comme mon jeune ami le reconnaît lui-même. Freud.
Journal 1907. Mes parents, et tout particulièrement ma mère, étaient très fiers de la pureté et de l'innocence de leur fille. Mes camarades, de leur côté, ne voulaient pas me souiller, me refusaient tout éclaircissement. Au lycée, on avait rayé du programme des sciences naturelles tout ce qui touchait à la fécondation animale par souci des convenances. Si bien que je finis moi-même par me complaire dans cette innocence. Et, d'une certaine manière, je redoutais de perdre ma pureté en prenant connaissance de certaines choses. Ainsi, ce ne fut qu'à l'université, à l'occasion des cours de zoologie, que je sortis enfin de mon ignorance relative aux questions sexuelles.
Spielrein, entre Freud et Jung. Voilà une curieuse position pour une femme, Aimée Haniel.
Oui, oui, une position très dure, très difficile, hein, qu'elle a tenue comme elle l'a pu, avec cet espoir de faire se rejoindre leurs deux conceptions théoriques et que l'amitié entre eux ne se brise pas. Mais c'est un espoir vain, hein, bien entendu.
On voit qu'elle avait une vocation alchimiste, enfin, en voulant réconcilier ses contraires.
Oui, enfin, Caro Tenuto, qui a retrouvé un ensemble de lettres et son journal, dit qu'elle avait toujours un désir de concilier les opposés, y compris même dans le contenu de ses travaux.
Et oui, destruction, renaissance,
oui, oui, oui,
effectivement. Alors, entre Jung et Sabina Spielrein, alors, puisque c'est ainsi que commence la relation,
oui.
Comment vous la voyez, cette relation, la relation amoureuse, relation de travail?
Relation amoureuse, certainement très forte de l'un et de l'autre, hein, mais ce qui la définit peut-être le mieux, c'est ce que Sabina Spielrein en dit elle-même, c'est-à-dire qu'elle pense qu'il y a entre les deux êtres une parenté d'âme, c'est son expression. Et je crois qu'elle a raison. Si on donne à âme le sens que Jung a donné, c'est-à-dire l'âme archaïque, hein, non pas l'âme au sens religieux. Hein. Moi, je crois qu'ils avaient l'un et l'autre quelque chose à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui les états borderline, c'est-à-dire la capacité du sujet, avec un moi suffisamment fort pour tenir le coup, à entrer en relation avec les éléments les plus archaïques de l'inconscient. Comme si la membrane séparant le moi de l'inconscient était particulièrement poreuse.
C'est ainsi que Jung exerçait une sorte de fascination sur ses patientes par une sorte de charisme, mais peut-être qu'il était dû à cet état-là,
peut-être,
à cette faculté.
Oui, oui, c'est vraisemblable. C'est-à-dire que ses patients, ses patientes en particulier, devaient sentir chez lui cette capacité qu'il avait, qui aurait pu être quelque chose de très dangereux, en fait, d'être en relation avec ce qu'on pourrait appeler, faute de mieux, les couches les plus profondes de l'inconscient. Ce qu'il appellera plus tard, évidemment, les archétypes, l'inconscient collectif.
Le 24 octobre 1910, journal. Bientôt 3 heures du matin. Cela fait 3 heures que je n'arrive pas à dormir. Nous nous aimons autant que deux êtres peuvent s'aimer. Si seulement il était libre. Mais il ne l'est pas. Et donc, compte tenu des circonstances, je consigne ici même ma ferme décision. Je dois me détacher de lui. Je veux encore vivre et être heureuse. En ce moment, je dois me mettre une compresse froide sur le front, tant ma violente passion me rend fiévreuse. Seigneur, je voudrais au moins pouvoir me reposer la nuit afin de rassembler les forces nécessaires au commencement de mon nouveau travail, de l'instinct de mort. Viens donc enfin raison. Relâchez votre ronde, ne serait-ce que quelques mois, ô Dieu obscur. Ô mon ange gardien, fasse que je survive à ces tumultes intérieurs. C'est dit. Il faut que je me libère.
Donc au départ était la parenté d'âme, mais pas n'importe laquelle, puisque elle a quand même été la patiente.
Bien entendu, oui, oui. Jung essaye avec elle sa première analyse freudienne. Il a lu l'interprétation des rêves de Freud Et dans son univers psychiatrique du Bürgersli, là où il travaille depuis 1900, à Zurich, il y a la rigueur de Bleuler, son patron, hein, et Jung croit trouver en Freud, à ce moment-là, vraiment la possibilité d'une conception théorique satisfaisante. Alors il y a là certainement un espoir chez Jung d'avoir découvert enfin la bonne méthode. Et il l'applique pour la première fois, semble-t-il, avec cette patiente extrêmement douloureuse et très souffrante qu'est Sabina Spielrein, donc à partir de 1904.
Oui, elle rentre le 17 août 1904 et elle sort en juin 1905.
Oui, elle reste 9 mois et un peu plus, hein, le temps de faire un enfant symbolique qu'elle nommera Siegfried, avec l'assentiment de Jung.
Oui, je crois qu'il y a... diagnostic, c'est schizophrénie, mais elle est plus proche de l'hystérie.
Oui, et maintenant on s'accorde à dire que c'est une grande hystérique. Dans une conférence de 1907, Jung en parle comme d'une hystérie psychotique, ce qui n'est pas une classification reconnue et classique, mais qui indique bien qu'il s'agit d'une hystérie extrêmement grave. Les symptômes étaient très, très douloureux et inquiétants. C'est, dans l'enfance, elle a vécu des choses assez extraordinaires. D'abord, on sait qu'elle était battue d'une manière excessive par son père, hein, mais elle avait une réaction à ça très sexualisée, alors avec des masturbations infinies et incoercives, mais aussi des tas d'autres symptômes peut-être plus inquiétants et qui seraient plus proches de la schizophrénie ou quoi de la psychose. Vers 7-8 ans, on sait qu'elle parlait à un esprit de façon très couramment. Et puis, un peu plus tard, elle écoutait, pensait-elle Dieu, et puis ensuite, elle a cru que c'était plutôt un ange qui lui parlait, surtout en allemand, et puis parfois en russe. Oui, elle était russe. Donc il y a chez elle une capacité à entendre des voix, pour nous qui viennent évidemment de l'inconscient, mais tout à fait particulière et évidemment assez... C'est assez inquiétant. Et c'est une réussite donc de Jung. Jung est tout heureux de dire à Freud que ce cas si difficile a bien marché. Et selon sa méthode à lui,
elle devient psychiatre, elle devient analyste.
Oui, oui. Ce qui prouve sans doute qu'elle n'est pas psychotique, c'est que quand elle est venue à Zurich, ses parents l'ont amenée à Zurich, c'était pour faire déjà des études de médecine. Et puis elle a eu cet internement en psychiatrique. Et après sa guérison, grâce aux efforts de Jung, elle commence ses études de médecine et elle devient médecin et psychiatre. Elle fait une thèse importante sur la schizophrénie.
Oui.
Et puis très vite après, elle écrit son premier livre qui a beaucoup d'intérêt. Hein,
La destruction comme cause du devenir.
Comme cause du devenir, en 1912, la même année où paraît les métamorphoses et symboles de la libido de Jung.
Les métamorphoses de l'âme et ses symboles ont une influence sur ce travail de Spielrein.
Ah oui, oui, la première partie, hein, car c'est la première partie seulement qui est éditée.
Aimé Agnel.
Sabina Spielrein écrit La destruction comme cause de devenir. Elle s'y réfère, elle le cite. Hein. On sent qu'elle a beaucoup profité, elle le dit elle-même.
Des
rencontres avec Jung et puis de tout ce que Jung lui a dit de sa pensée, car il se confiait beaucoup à elle.
Oui, il lui fait lire son journal, il dit « Il n'y a que ma femme et vous
oui. ».
Charmant.
Ah oui, oui, c'est trop d'intimité.
Qui a lu ce journal.
Oui. Ah oui. Non, mais Jung certainement a eu un moment extrêmement subtil et délicat dans cette relation avec Sabina Spielrein.
Un accord sur Wagner, je crois, qui oui, manifeste cette parenté d'âme, une sensibilité.
Cet enfant qui serait oui. né peut-être après ces 9 mois de traitement et aboutissant à une belle guérison, donne naissance à Siegfried. Et tous les deux ont fantasmé beaucoup sur ce personnage.
C'est l'enfant du fantasme.
C'est l'enfant du fantasme. Et Jung ne s'en sortira finalement de ce fantasme que tard, en 1913. avec un rêve qu'il a fait. Et...
Parce qu'elle dit « je veux un enfant de vous », elle imagine Siegfried, elle le décrit. Mais Jung dit « j'ai dû me débarrasser, rompre avec une patiente, mais qui me fait les pires ennuis parce que je n'ai pas voulu lui faire d'enfant ».
Oui, alors, bien sûr.
Il n'est pas toujours très clair, lui, dans cette relation.
Hein, c'est
parce
qu'il
écrit à ses parents.
Mais bien sûr, pour essayer de rompre d'une manière vraiment qui est... pas du tout heureuse ni belle.
Il lui demande de l'argent, des dommages.
Il demande à la mère de payer la psychanalyse. C'est-à-dire, donc, ça nous donne l'idée assez bizarre, effectivement, que, bon, dans le temps de l'internement psychiatrique, tout était en ordre d'un point de vue du cadre, on pourrait dire. Mais ensuite, Jung l'a pris comme patiente, et semble-t-il, donc, sans la faire payer. Mmh. Et après coup, voyant les dégâts, si on peut dire, de cette relation, que cette relation risquait d'entraîner dans sa vie sociale, et familial, il est intervenu de manière très brutale en demandant à la mère, qui a elle-même une grande hystérique, de Sabina Spielrein, de payer les consultations.
Et pourquoi s'il y a des dégâts, Aimé Haniel ? C'est parce qu'il y a Sabina Spielrein, donc jeune russe, qui vient à Zurich pour être médecin, qui tombe malade, qu'on interne chez Jung, qui guérit, et qui tombe amoureuse, donc est dans le transfert le plus complet.
Oui.
Et le dégât, c'est qu'il y a du contre-transfert, c'est-à-dire qu'il y a du sentiment de Jung à son égard.
Il y a du contre-transfert et il y a un manque d'expérience du contre-transfert.
Il a 30 ans, 31 ans, Jung.
Oui. Et 10 ans de plus juste que Sabina Spielrein. Il est né en 75 et elle en 85. Donc c'est une sorte de frère aîné. Un frère aîné, c'est plus facile d'en tomber amoureux, évidemment, que d'un père, comme ce sera le cas avec Freud. C'est sans doute une des raisons, d'ailleurs, de son intérêt de plus en plus grand pour Freud.
Est-ce qu'elle va être amoureuse aussi de Freud, vous pensez ?
Je ne pense pas. Je pense qu'elle l'aimera comme un père, alors qu'elle a eu des problèmes avec son père très, très difficiles. C'était un père, je crois, impossible à vivre, d'après les témoignages.
Mais Siegfried, c'est l'enfant de l'inceste, c'est bien dit.
Bien entendu, c'est l'enfant de l'inceste, c'est tout à fait ça. Oui. Et alors, Jung se séparera de cette image, mais quand même assez tardivement, seulement en 1913, puisque dans son autobiographie, Souvenir, rêve et pensée, il cite ce rêve et le cite d'une manière intéressante en disant que c'est enfin l'analyse de l'ombre que ce rêve lui permettra, c'est-à-dire la critique très dure d'une part d'idéal qui vivait toujours en lui, bien entendu, puisque quand on découvre l'ombre, l'idéal peut enfin être détruit. Alors voici ce rêve. Je me trouvais avec un adolescent inconnu à la peau foncée, un sauvage, dans une montagne solitaire et rocheuse. C'était avant le lever du jour. Le ciel à l'Orient était déjà clair et les étoiles commençaient à s'éteindre. Par-delà les montagnes retentit le corps de Siegfried, et je sus dès lors qu'il nous fallait le tuer. Nous étions armés de fusils, et nous nous mîmes en embuscade dans un chemin étroit. Soudain, Siegfried apparut au loin, tout au haut de la crête de la montagne, dans le premier rayon du soleil levant. Dans un char fait d'ossements, il descendit à une vitesse folle le flanc rocheux de la montagne. Lorsqu'il apparut à un tournant, nous tirâmes sur lui, et il s'effondra, mortellement atteint. Plein de dégoût et de remords d'avoir détruit quelque chose de si grand et de si beau, je m'apprêtais à fuir, poussé par la peur qu'on pût découvrir le meurtre. À ce moment survint une pluie drue et abondante, dont je savais qu'elle ferait disparaître toutes les traces de l'attentat. J'avais échappé au danger d'être découvert, la vie pouvait continuer, mais il restait en moi un sentiment intolérable de culpabilité. Je crois que c'est un des premiers décrochements, si on peut dire, pour Jung, de ce contre-transfert qui l'a dépassé complètement avec Sabina Spielrein.
Avant de venir aux trois personnages, Nicole Kress-Rosen, moi j'aimerais bien venir à deux des protagonistes, c'est-à-dire les deux hommes de cette histoire, parce qu'il y a deux hommes et une femme entre les deux. Il y a Jung et il y a Freud. Vous donnez quelques dates, comme ça, de leur itinéraire commun et puis de leur divergence. Alors vous dites 1907-1908, c'est la rencontre. Alors cette rencontre Freud, Jung, parce que un a 31 ans, l'autre 51, il y a 20 ans, un 32 pour Jung et 51 pour Freud, oui. Comment se fait cette rencontre et qu'est-ce qui se joue là, quoi ?
Cette rencontre se fait d'abord parce que Jung a très envie de rencontrer Freud depuis longtemps. Freud est un héros, enfin à l'époque c'est quelqu'un de très connu, Jung est un jeune médecin. Et il a découvert quelque chose en lisant la science des rêves à la sortie en 1901, quelque chose qui l'a énormément frappé, où il a eu l'impression de reconnaître quelque chose de sa propre recherche. Et il a eu très longtemps envie de rencontrer Freud sans y arriver. La première fois où ils auraient pu communiquer, c'est à propos de Sabina Spielrein, au moins épistolairement, puisque en 1905, après quelques mois passés au Berkeley en traitement chez Jung, Sabina Spielrein est sortie et continue un traitement psychanalytique avec lui. Or, la mère de Sabina Spielrein, dès cette époque, demande à ce moment-là à ce qu'elle arrête ce traitement et trouve un autre médecin. Et on a trouvé une lettre qui était adressée par Jung à Freud, qui demandait à Freud de prendre en charge Sabina Spielrein, et où il lui raconte un petit peu le cas, hein, où il lui dit ce que c'est comme cas. Et puis on ne sait pas pourquoi, cette lettre qui est restée dans les archives du Berkeley n'est jamais arrivée, n'est jamais partie, et Sabina Spielrein a continué son analyse, enfin son travail, mettons, thérapeutique, je ne sais quoi, avec Jung à cette époque-là. Donc on se rend compte que déjà, il y aurait eu, enfin Sabina était déjà entre Freud et Jung, et lorsque, après, il expose Jung à un congrès un cas d'hystérie freudienne, hein, un traitement freudien de l'hystérie, c'est de Sabina qu'il parle. Donc on a déjà Sabina est un moyen en quelque sorte d'atteindre Freud. Et quand il se rencontre, alors pour Jung c'est formidable, mais ce qui est extraordinaire c'est que pour Freud aussi c'est formidable, hein, cette rencontre. Et que là, il y a une espèce de coup de foudre, enfin, dont je parle, pour ce jeune homme, enfin, ce jeune médecin, il le trouve tellement formidable au bout de 13 heures d'entretien que immédiatement, il dit c'est mon successeur, c'est mon héritier, c'est lui qui va prendre la suite après moi.
Ils se rencontrent à Vienne. Et très vite, ils vont échanger des photographies comme des amoureux. Ils vont échanger des photos. Et... Parce que pour Freud, Jung est quand même l'enfant chéri, l'héritier,
le
fils.
Tout de suite. Et ça, c'est d'autant plus frappant quand on lit alors la correspondance des autres élèves de Freud à l'époque. Ils ont pris ça en pleine figure parce que chacun rêvait d'être l'héritier et le fils chéri. Et là, tout d'un coup, cet outsider, là, ce type qui n'est pas du tout ni viennois, ni juif, enfin qui n'est pas du cercle, hein, ce nouveau venu, tout d'un coup, a été choisi comme ça par Freud. Et évidemment, ils remâchent leur rancœur, ils disent du mal de lui, ils le dénoncent, enfin, etc. Et ça sert à rien, parce que Freud, pendant ces années-là, est absolument amoureux, on peut dire, de ce jeune homme, et ne veut rien entendre. Il le trouve formidable. Chaque fois qu'il le voit, il est absolument ému et content et tout. Bon, et après, évidemment, le tableau change petit à petit.
Journal, 11 septembre 1910. Allons, pèlerin, es-tu prêt? Reste calme et garde ton sang-froid. Tu cours à ta perte si tu crois au péril. Ah, ces deux nuits furent bien difficiles. Mon amour pour lui m'a submergée avec une ardeur sauvage. Tantôt je résistais violemment, tantôt j'abandonnais chaque doigt à ses baisers et je me pendais à ses lèvres dévorées d'amour. Mais comme il est stupide de parler de cela. Voyez la raison pure et froide, donnée dans de telles fantaisies. Comment me garder de cette folle puissance? À présent, épuisée, je reste assise là, après les tempêtes endurées, et je me répète fermement, pas ça. Mieux vaudrait une amitié parfaitement pure, serait-ce à distance. Il est pourtant certain qu'il m'aime. Mais il y a un mais. Comme disait notre vieux professeur d'histoire naturelle, à savoir que mon ami est déjà marié. Nous nous sommes connus, nous nous sommes aimés, sans savoir comment. Déjà, il était trop tard pour fuir. Plus d'une fois, nous connûmes des étreintes passionnées. Bien des choses ont eu lieu.
Il semble que petit à petit, cette patiente que Jung a toujours bien appréciée, ça se sent déjà dans les tout premiers comptes rendus psychiatriques qu'il y a au Burkholzli, c'est quelqu'un qu'il estime comme quelqu'un d'intelligent. Et c'est vrai, c'était certainement une personnalité, elle était complètement folle, enfin folle dans le genre hystérique, quoi. À cette époque-là, elle en faisait voir des vertes et des pas mûres à son entourage. Mais elle était intelligente, elle était intéressante et... Jung y a trouvé de l'intérêt, d'autant plus qu'elle était juive et qu'il avait, il parle à un endroit quelconque, je ne sais plus, dans une lettre, du complexe de la juive. Il y a chez lui un attrait pour les femmes aux cheveux noirs, enfin quelque chose qui remonte à son enfance et qu'il analyse comme ça à mots couverts dans une lettre à Freud. Bon, des tas de choses qui font que entre eux se noue quelque chose de plus qu'une relation, évidemment, patient-médecin, et quelque chose, alors, qui a été... considéré comme une liaison par beaucoup. Je ne sais pas si ça a été une véritable liaison au sens propre du terme. En tout cas, on a quelques lettres qui indiquent que c'était très familier, mais familier au sens, il lui écrit gentiment comme un papa écrirait à sa fille, enfin, on a affectueusement. Hein, il n'y a aucun endroit où il, lui, a un ton passionné dans ses lettres. Aucun endroit. Il confie des choses, il est très proche, mais il ne lui dit jamais ma chérie ou je ne sais quoi, jamais. On n'a aucune. Cher ami, c'est ça, je vous embrasse affectueusement ou quelque chose comme ça, cordialement. Ce ne sont pas des lettres d'amour. Et ça a continué quand même quelques années. Elle est restée dans sa proximité pour faire ses études, pour faire sa thèse, etc. Et en 1908, donc, il semble que ça se soit précipité. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a été plus loin, effectivement, qu'il n'aurait dû, du point de vue comme ça, de la décence. En tout cas, elle, ça l'a fait exploser à ce moment-là. Et elle est prise dans un mouvement passionnel au début de 1909 qui fait qu'elle fait scandale, en quelque sorte. Elle vient revendiquer quelque chose. Elle vient en parler autour d'elle. Et là, Jung, c'est là qu'il prend peur. Il commence à écrire à Freud qu'il y a une patiente qui lui fait des problèmes, etc. D'abord parce qu'il craint que Freud ne l'entende par ailleurs, ce qui d'ailleurs est le cas. Et bon, alors il y a comme ça un échange de lettres entre Freud et Jung pendant ce début d'année 1909, où Freud veut savoir ce que c'est, mais ça le dérange, ça l'énerve, on se rend compte qu'il voudrait balayer tout ça. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Hein. Jung jure ses grands dieux qu'il n'a rien fait de mal, qu'il s'est bien conduit, que... Bon, est-ce qu'il ment complètement? Il doit certainement cacher une bonne partie de la vérité, mais enfin... En tout cas, il essaye de demander de l'aide à Freud, qui refuse un entretien à Sabina Spielrein. Là, on voit que Sabina commence aussi à faire appel à lui, à ce moment-là. Il refuse, il la renvoie en quelque sorte à l'analyse. Il dit, il faut régler ça sur le mode intrapsychique. C'est-à-dire qu'il a pris ça pour une histoire de transfert qui a mal tourné. Enfin, hein. Elle veut un enfant, elle veut l'épouser. Bon, c'est banal, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Et débrouillez-vous avec ça. Et effectivement, vers le mois de juin, on a l'impression que tout s'est arrangé d'après les lettres de Jung. Jung dit, j'ai parlé avec elle, elle est devenue très raisonnable, merci beaucoup, professeur, etc., etc. Tout va bien, on part ensemble en Amérique, tout est arrangé. Et puis malheureusement, on se rend compte avec les carnets, le journal, que rien ne s'est arrangé. Enfin, elle continue.
Le journal de Sabina,
dont on a retrouvé donc des fragments, qu'elle continue d'être prise dans cette passion, d'espérer, d'attendre, de surveiller chaque mot qu'il lui dit, parce qu'il continue de se voir, étant donné qu'elle travaille avec lui. Alors chaque mouvement qu'il fait vers elle, chaque mot qu'il lui dit est interprété dans le sens de « il m'aime encore ». Et alors ça monte, jusqu'au moment où elle part pour Vienne, parce que sans doute, elle a compris que ça n'était pas possible.
Et lui fait des enfants à sa femme.
Pendant ce temps-là, il continue de faire des enfants imperturbablement à sa femme, sans se poser de questions, manifestement.
Tout en disant, j'ai besoin d'amour tumultueux et changeant.
Oui, mais c'était un séducteur, un grand séducteur, manifestement. Il était bel homme, on voit ça sur les photos. Il était une personnalité certainement très très intéressante, qui faisait que les femmes tombaient comme des mouches autour de lui. C'est ce que sa femme dit d'ailleurs, son épouse, quand elle écrit à Freud, elle dit toutes les femmes sont amoureuses de lui, etc.
Lettre à Freud, 7 mars 1909. Une patiente que j'ai tirée autrefois d'une très grave névrose avec un immense dévouement, et qui a déçu mon amitié et ma confiance de la manière la plus blessante que l'on puisse imaginer. Elle m'a fait un vilain scandale, uniquement parce que je lui ai refusé le plaisir de concevoir un enfant avec elle. Je suis toujours resté envers elle dans les limites d'un gentleman. Mais je ne me sens malgré tout pas très propre aux yeux de ma conscience un peu trop sensible. Et c'est cela qui fait le plus mal, car mes intentions ont toujours été pures. Mais vous savez bien que le diable peut employer les meilleures choses pour produire de la boue. J'ai appris un nombre indicible de choses à cette occasion en philosophie de la vie conjugale. Malgré toute l'auto-analyse, j'avais en effet, auparavant, de mes composantes polygames, une connaissance tout à fait inadéquate. Maintenant, je sais où et comment on saisit le diable. Ces prises de conscience douloureuses et cependant hautement salutaires m'ont par là précisément, je l'espère, assurer des qualités morales dont la possession me sera d'un grand avantage dans ma vie future. Jung.
Le 30 mai 1909. Cher monsieur le professeur Freud, je vous serai très reconnaissante de bien vouloir m'accorder une petite entrevue. Il s'agit pour moi d'une affaire de la plus haute importance, dont il vous intéressera sans doute de prendre connaissance. Si cela vous convenait, j'aimerais vous prier de bien vouloir avoir l'amabilité de me faire connaître quelque temps à l'avance l'heure qui vous conviendrait, car je suis ici assistante à la clinique et je devrais donc me préoccuper de trouver une remplaçante pendant mon absence. Vous avez peut-être pensé que j'étais une audacieuse en quête de renommée et qui voulait vous présenter un méchant travail promis à une célébrité universelle, ou qu'il s'agissait de quelque chose de ce genre. Non. Ce n'est pas ce qui m'amène auprès de vous. Vous aussi m'avez mis dans l'embarras. Avec toute ma considération et dans l'espoir d'une réponse favorable. Sabina Spielrein.
Juin 1909, à Sabina Spielheim. Très cher collègue, vous me mettez dans l'embarras. Je ne peux tout de même pas vous contraindre à faire un voyage à Vienne pour une affaire qui, d'après les termes mêmes de votre lettre, me concerne au premier chef. Je ne peux deviner de quelle affaire il est question, ni comment vous en arrivez à être tenté de faire ce sacrifice pour moi. Je vous prie donc de commencer par m'expliquer par écrit ce dont il s'agit, afin que je puisse juger de l'opportunité de votre voyage, et que je puisse, le cas échéant, réfléchir à la chose un peu au préalable. Freud.
Le 10 juin 1909. Cher monsieur le professeur Freud, pardonnez-moi de vous déranger encore une fois. 3 est bien le chiffre divin. Vous pensez que je m'adresse à vous afin que vous rétablissiez la paix entre moi et le docteur Jung ? Mais nous n'avons connu aucune guerre. Mon plus cher désir est de me séparer de lui à l'amiable. Je suis suffisamment versée dans l'analyse. Je me connais assez pour savoir qu'une rêverie à distance serait ce qui me conviendrait le mieux. Réprimer un sentiment ne me vaudrait rien, car si je devais le faire à l'égard du docteur Jung, je ne pourrais plus aimer personne. En revanche, si je laisse la porte entrouverte, il se trouvera bien quelque jeune homme qui aura l'air plus ou moins sympathique, chez qui l'on trouvera quelques ressemblances avec l'aimé et que l'on finira bien par aimer aussi. Je crains, devant Freud, de donner un exemple tiré de mon histoire, car il est possible que je dise une bêtise. Mais je ne peux m'empêcher de penser à la relation de Berne avec sa maîtresse. Elle a pu en aimer un autre et l'épouser tout en restant pourtant, durant toute sa vie, fidèle à Berne. Elle a en effet toujours vécu en esprit, avec lui. Moi, au contraire, je voudrais me séparer complètement du docteur Jung et suivre mon propre chemin. Mais je ne pourrai le faire que lorsque je serai assez libre pour pouvoir l'aimer. Lorsque je lui aurai tout pardonné ou lorsque je l'aurai tué.
Vous n'imaginez pas toute l'importance qu'a pour moi l'espoir de pouvoir aimer quelqu'un que je ne sois pas obligé de condamner et qui ne se condamne pas à étouffer sous la banalité de l'habitude. Jung.
Comment est-ce qu'on peut analyser cette relation entre la Spielrein, comme dit Freud,
la petite, dit-il,
la petite,
aussi.
Oui, et Jung?
Du côté de Jung, je pense que ça sera la découverte pour lui de ce qu'il appellera plus tard l'anima. Et il est pris entre deux figures d'anima. Une qu'il décrira pendant toute sa vie et qui l'intéressera particulièrement, c'est l'anima guide. C'est-à-dire une image donc de femme intérieure à l'homme, une image qui serait inconsciente chez l'homme et qui est l'étrangère absolue. Qui est une figure de femme la plus éloignée de la mère possible. Et il l'appelle la juive, lui, hein, ce qui est aussi tout un programme. Et c'est une anima, mais il y en a une autre qui explique la position ambivalente, je suppose, de Jung entre Sabina Spielrein et sa femme, Emma Jung, qu'il ne cesse, semble-t-il, d'aimer. Alors, la seule explication pour moi, c'est l'existence de deux figures d'anima antagonistes, ou en tout cas... Qui ne correspondent pas. La première, c'est celle dont je viens de parler, l'anima guide, cette femme qui peut amener l'homme à faire aussi bien les pires folies qu'à découvrir la plus grande sagesse en lui. Et puis l'autre anima, c'est l'anima qui reste prise dans le complexe mère, c'est-à-dire l'anima de la maison, on pourrait dire, par rapport à l'anima des grands voyages. Ce n'est plus l'étrangère, aussi, c'est une anima plus familière.
Et Spielrein, elle appartiendrait au premier anima,
bien entendu,
à l'étrangère, parce qu'elle est juive.
Bien entendu.
Elle est juive, et cet enfant qu'elle veut faire, d'ailleurs, cet enfant imaginaire, elle veut que ce soit la réconciliation arienne, sémitique.
Oui, c'est son rêve.
Et elle, son animus, elle va le porter sur Freud.
Oui, c'est très juste, oui. Elle a d'abord été, en femme sacrificielle, l'anima de Jung concrétisée, on pourrait dire, avec cette acceptation étrange d'être la muse, mais de n'être éventuellement que ça. Et puis tout de même, Jung a dû accepter certainement qu'elle développe une certaine partie de sa créativité propre, puisque très vite elle commencera à écrire des textes que lui apprécie quand il lui en parle à elle et qu'il déprécie quand il en parle à Freud.
Pourquoi est-ce qu'il y a une telle dénégation chez lui de cette histoire d'amour?
Moi, je crois que d'abord...
Celle de l'analyste ou celle de l'homme marié?
Oh, certainement les deux, parce que c'est une histoire qu'il a dépassée complètement. C'est pour ça qu'il en tirera une théorie, mais avec beaucoup d'années de réflexion nécessaires pour que ça devienne une conception théorique. Mais pendant très longtemps, il sera complètement dépassé sur le transfert et contre-transfert.
Oui.
Mais pendant longtemps après sa séparation avec Sabina, il dira que la participation mystique, c'est-à-dire le peu de, de différenciation entre le sujet et l'objet, c'est quelque chose d'abominable. Alors que à l'époque où il connaît Sabina, il vit ça. Il vit dans ce que Sabina appelle le nous, hein, c'est-à-dire quelque chose d'une dissolution relative, bien évidemment, du moi dans un nous commun. Hein. Ce que Jung appelle participation mystique, dans un terme emprunté à l'ethnologie et à Lévi Brulle.
C'est quelque chose qui est fusionnel.
Oui, c'est ce qu'on appelle fusionnel d'une manière générale.
Ouais. La destruction comme cause du devenir. Pourquoi ne vivons-nous pas, ne reproduisons-nous pas toujours les mêmes événements? C'est donc qu'il y a en nous, parallèlement au désir de permanence, un désir de transformation, qui dissout les contenus de représentation individuelle en un matériau similaire, tiré des temps anciens et qui devient ainsi, aux dépens de l'individu, un désir typique, c'est-à-dire propre à l'espèce, qui, projeté vers l'extérieur, apparaît sous forme d'une œuvre d'art.
Elle sait qu'elle doit produire quelque chose.
Martine Gallard.
Elle en est intimement persuadée. Jamais elle ne se situe comme une petite femme simplement amoureuse. Sa passion, ça va plus loin que ça. Et dans l'histoire du nom qu'elle a donné à cet enfant qu'elle aurait aimé avoir de Jung, Siegfried, ce fameux Siegfried, c'est toute une histoire qui est là. Hein, car on se demande à lire bien attentivement les textes si c'est vraiment seulement un enfant de chair dont elle avait envie, si c'est d'abord un enfant de chair, une réalisation d'amour concret, et pas elle aussi une créativité, une œuvre qui l'inscrirait dans le destin de la psychanalyse. Car le texte majeur qu'elle a écrit sur la destruction comme cause du devenir, elle l'offre à Jung comme son petit enfant Siegfried, comme leur enfant Siegfried. Et à d'autres moments, sentant que la réalisation concrète ne pourra pas se faire, entre eux, elle se dit « il faut que je trouve un père pour mon Siegfried ». Donc le Siegfried, c'est quelque chose dont elle est porteuse elle aussi.
Dans les années 1909-1910, se produit le tournant. Alors dans ce tournant sont incluses, par exemple, l'histoire des syncopes de Freud, qui montrent déjà le malaise. C'est à propos de la mort deux fois de suite. Hein. Oui, Nicole Kress-Rosen.
Il y a ce voyage, c'est au cours du voyage en Amérique, oui. Le voyage commun, qui d'ailleurs suit le scandale Spielrein, le moment où Sabina Spielrein est apparue de nouveau, mais sur le mode de « j'ai une patiente qui me fait des histoires », etc., etc. Enfin bon. Mm-hmm. Et après ça, quand ils partent en Amérique tous les deux, il y a aussi Ferenczi qui est là, il y a cet incident, effectivement, où Freud fait un évanouissement, comme ça, et à l'occasion d'une conversation sur des morts qu'on trouvait dans les pétrifiés, comme ça, dans les marais, du côté de Brême, et ce qui est interprété immédiatement comme la peur d'être tué par les fils, et quelque chose qui est relevé par Jung comme tel. Et effectivement, pendant ce voyage, il y a quelque chose de très important qui se passe à la fois pour Jung et pour Freud. Ils se racontent des rêves, comme il se passait beaucoup, ils s'analysent mutuellement les rêves, ils font des petits bouts d'analyse comme ça, mutuels, mais Freud refuse de donner des associations personnelles sur des rêves qu'il fait. Et ça, Jung, il trouve ça absolument en dessous de tout, et ça lui fait déchoir Freud, l'idée que la vérité ne passe pas avant, au fond, ce désir de ne pas se dévoiler. Hein. Et ça, ça a été quelque chose, quand il en parle dans ses mémoires, Jung, il dit que ça a été vraiment le début de la cassure, ça. Et du côté de Freud, sans doute, déjà, il se rendait compte que Jung n'était pas aussi dévoué à lui, à sa cause, qu'il le souhaitait.
Parce qu'il y a toute la découverte de la mythologie par Jung, dont il va faire une affaire tout à fait personnelle, dites-vous. Hein. Il va faire une sorte de cachotterie, de dissimulation au père. Enfin, il ne veut pas être pris comme le fils, d'ailleurs. Il lui dit tout le temps, votre histoire de complexe paternel, bon, ce n'est pas le mien. Oui.
Et effectivement, c'est au retour d'Amérique qu'il commence à travailler dans son coin, sur la mythologie, sur la religion, sur des choses qui le concernent, enfin, qui sont vraiment son affaire, qui ne sont pas celles de Freud. Et Freud se rend compte qu'il lui fait des cachotteries. Et ça, il ne supporte absolument pas. Il lui écrit sans arrêt. Enfin, et là, il y a une période extrêmement critique qui va déboucher d'un côté sur la publication des Métamorphoses et symboles de la libido, qui va être le prétexte de la rupture, enfin l'occasion de la rupture, et de l'autre côté, l'écriture de Totem et Tabou pour Freud. Alors ça, c'est mon interprétation, mais ça me paraît tellement évident quand on lit les textes que Totem et Tabou a été nécessaire à Freud pour faire pièce à ce qu'il sentait du côté de Jung. Ça, les Freudiens, en général, ne supportent pas cette interprétation, parce que Totem et Tabou, il faut que ça soit une création du génie de Freud. Mais enfin, c'est vrai que c'est aussi une création du génie de Freud, mais quand on regarde le texte et qu'on voit de quoi il parle, on se rend compte que c'est tout à fait branché sur ce qui se passait dans cette relation-là, hein, ce qui venait au jour, ce qui le faisait souffrir, Freud, ce qui était en question, c'est-à-dire la question du fils et du père. Hein, et le fait que là, en plus, Jung avait cette particularité, ils ont un seul échange épistolaire théorique, hein, sur l'inceste, sur la question de l'inceste à cette époque-là. Et là-dedans, il y a quelque chose de très intéressant, c'est une discussion un petit peu comme ça, un peu floue du côté de Jung, mais il finit par dire à Freud, par écrire à Freud, écoutez, vos histoires d'inceste, ça ne tient pas debout. De toute façon, il y a des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de fils du père. Hein. Les matriarcats, on ne sait pas qui est le père, peu importe, c'est la mère qui domine. Et alors ça, alors que jusque-là, Freud a laissé passer des tas de petites choses qui auraient fait sauter en l'air n'importe quel fidèle, hein, de la théorie freudienne, alors là, il réagit. Il réagit absolument en disant, il discute point par point, et en particulier, il dit, il y a toujours des fils du père. Hein. Ça, c'est quelque chose, il faut absolument qu'il y ait des fils du père, et qu'il faut qu'il y ait des pères, donc. Et là, il écrit Totem et Tabou pour vraiment installer le père. Alors là, le père éternel, le père qu'on le tue, eh bien, il devient un dieu. Donc on ne peut plus le tuer. Hein. Il y en a quelque chose qui est vraiment une réponse du tac au tac. Hein.
Au moment de la rupture, Freud va le traiter de fou.
Alors il dit Meshuga. Hein, il utilise ce terme qui veut dire, pas, il ne dit pas il est psychotique ou il ne dit pas il est paranoïaque, comme il avait dit de Fliss, qui était son premier grand amour et sa première grande déception aussi. Il ne dit pas qu'il est paranoïaque, d'ailleurs ça aurait été faux, mais il dit Meshuga. Meshuga, c'est cinglé, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est un terme presque affectueux, on pourrait dire. Mais enfin, il ne peut pas dire qu'il est psychotique. Il dit, c'est-à-dire qu'il est fou au sens de, il est pas comme nous, quoi. Il fait des trucs bizarres. Enfin, voilà. Alors ça va se répandre comme une traînée de poudre dans les milieux freudiens. C'est-à-dire, on va dire, Jung est fou, c'est un fou, quoi. Et encore maintenant, on entend ça.
Du malentendu entre eux venait du fait que Jung était du côté de ce qui était le plus étranger finalement à Freud, c'est-à-dire du côté de la passion mystique, du côté du lieu, enfin de la mère, hein, et du féminin. La rupture, j'ai un peu évacué l'enjeu de la rupture. Jung lui dit, vous prenez tous vos amis comme des patients, ou je ne sais plus ce qu'il lui dit, quelque chose de cet ordre-là.
Vos élèves, vous les prenez comme des patients. C'est-à-dire que à la fin, c'est devenu complètement sauvage, enfin, leur échange de correspondance, parce qu'ils se font des interprétations épouvantables l'un à l'autre, et ils ne se supportent pas. Donc, ils se renvoient. Mais ce n'est pas ça, la vraie raison n'est pas là. Évidemment, la vraie raison, c'est que Jung a voulu reprendre sa liberté, en quelque sorte. Il ne veut pas être celui que Freud voulait qu'il soit.
Le dauphin,
le fils, il n'en veut pas de ça, parce qu'il n'adhère pas. Finalement, il n'a jamais adhéré, et il se rend compte de plus en plus qu'il n'adhérera jamais, justement, par exemple, à la théorie sexuelle. Ça, il ne peut pas. Il a d'autres idées. L'inceste, ça lui paraît une des données, mais ça ne lui paraît pas l'essentiel. Le complexe paternel, ça ne lui paraît pas essentiel non plus, etc. Donc toutes les choses auxquelles Freud tient essentiellement, lui n'est pas d'accord. Bon, donc il ne peut pas continuer indéfiniment comme ça. Il a essayé de louvoyer pendant un certain temps pour rester proche de Freud, qu'il estimait, qu'il admirait, mais il ne peut plus. Et Freud, qui a investi tellement de son amour, de son cœur, de son espoir dans cet homme, ne le supporte pas. Ne supporte pas ce qu'il considère comme une traîtrise et ce que tout le monde autour de lui considère comme une trahison. Et alors il va devenir extrêmement violent aussi, il vit après. Enfin, c'est-à-dire que ce qu'il va dire de Jung, ce qu'il va même dire à Sabina Spielheim de Jung, ça c'est quand même des choses assez dures, hein, qui montrent qu'il était encore très très touché.
Finalement. Il va, je crois, une fois le critiquer à travers un exposé de Sabina Spielheim. Hein.
Oui. Oui. En effet, quand elle vient à Vienne après avoir quitté Zurich, là, elle va se réfugier un petit peu auprès de Freud, et elle va, au mercredi soir, là, au fameux mercredi, elle va faire un exposé d'un article qu'elle veut publier. Et c'est très mal reçu, parce que d'abord l'ambiance n'est plus très bonne entre les Jungiens et les Freudiens, et on sait très bien qu'elle est une élève de Jung, et c'est Jung qu'on critique à travers elle, hein, qu'on dit « oh oui, tout ça, c'est... hein. » Et d'ailleurs, Freud l'écrit à Jung à ce moment-là en disant, il joue sur l'allemand, sur la possibilité de jouer entre « son » et « votre »,« ihre », selon qu'il y a une majuscule ou pas, c'est « son exposé » ou « votre exposé », et il fait le jeu de mots, il dit, etc., entre parenthèses, j'aurais presque dit « votre exposé ». Donc là, Sabina passe à l'as, évidemment, dans la querelle.
Vienne, le 8 mai 1913, à Sabina Spielheim. Chère madame, je suis navré d'apprendre que vous vous consumez de désir pour Jung, précisément au moment où mes rapports avec lui sont particulièrement mauvais et où je suis presque convaincu qu'il n'est pas digne du tout de l'intérêt que je lui portais. Je prévois qu'avant peu, il détruira l'œuvre que nous avons laborieusement mise sur pied, sans que lui-même parvienne à faire mieux. Sans du tout tenir compte de nos divergences sur le plan scientifique, son comportement personnel appelle un jugement sévère. Mais c'est vraisemblablement en vain que je l'accuse devant vous. Permettez-moi donc de souligner plus volontiers ce que je connais bien et ce qui est plus réjouissant. Vous faites une pause d'après ce que je comprends et tout passe dans l'enfant. C'est la bonne voie. J'espère que cet investissement de la libido, plus que les précédents, vous rendra heureuse. Il vous sera aussi plus facile que ça ne l'est maintenant de vous contenter de cette limitation à un seul homme. Je crois que vous aimez encore le docteur Jung, d'autant plus puissamment que vous n'avez pas mis en lumière la haine que vous lui vouez. Votre très dévoué Freud.
Se demander pourquoi Sabina a quitté cette influence évidemment très grande qu'elle subissait de Jung et pourquoi elle a adhéré à la position de Freud et des Freudiens. Moi je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est l'importance du passé pathogène dont elle a découvert tous les effets dans sa psychanalyse, donc menée par Jung, et une psychanalyse freudienne. Donc pour elle, il est évident que la connaissance du passé est tout à fait prédominante et très importante. Elle dira dans La destruction comme cause du devenir que rien n'est vécu dans l'instant présent. La plus grande importance est donnée au vécu antérieur, bien entendu. Tout ce qui arrive n'est que la métaphore de quelque événement originel, inconnu de nous, etc. Donc pour elle, elle trouve vraiment très bien exprimé, très bien théorisé chez Freud, l'importance des contenus infantiles et la nécessité d'y recourir pour comprendre ce qui se passe au présent. Et ça, c'est une des raisons de son intérêt pour Freud et de son relatif détachement de Jung. Il y a aussi la sublimation.
Donc elle va laisser de côté un peu la mythologie, par exemple.
Oh non, elle s'intéressera à la mythologie. Non, ça, oui. Elle continuera. Non, mais elle reste freudo-jungienne, si on peut dire.
Une bâtarde, quoi.
Ah oui, ou en tous les cas, un sujet hybride.
Oui.
Брала ягодку земляничку. Подела молодёшенька по борочку. Брала ягодку земляничку.
Le 28 janvier 1919. Je suis encore trop saisie, trop bouleversée par ce qui est arrivé pour pouvoir en parler. Je suis restée longtemps prostrée. Après cette découverte que j'ai faite, il n'y a qu'une façon d'écarter un contenu physique, c'est de le tuer. Peut-être un jour vous raconterai-je ce que j'ai vécu, car il y a de quoi vous stupéfier, mais pour l'instant je n'en suis pas encore capable. Sachez seulement qu'après une longue stupeur qui me laissa toute prostrée, je m'éveillai comme d'un rêve en disant « Ainsi, il vit tout de même son Siegfried. » Mais qu'est-il donc? Et que veut-il de moi?
Pour vous, c'est une femme victime, c'est un peu une femme victime. Spielrein, c'est un peu la victime.
Non, je dirais pas ça. Je dirais pas qu'elle est victime. Elle a, bon, c'est comme ça qu'elle a été présentée.
Sacrifiée.
Oui, c'est autre chose. C'est-à-dire, elle n'est victime que d'elle-même, hein, premièrement. Le sacrifice, c'est quelque chose qui est cohérent avec sa passion. C'est une conséquence de sa passion. La passion, ça conduit toujours au sacrifice. On sacrifie toujours quelque chose dans une passion. Et là, au fond, cet amour pour Jung, c'est ça qui m'est apparu finalement petit à petit. C'était une passion qui était née du fait que chez Jung, il y avait un certain nombre d'éléments qui faisaient tout à fait écho à ce qu'elle-même avait en elle de plus important. Parce que effectivement, elle-même avait une tendance aussi à la mystique. Hein, premièrement, ça se manifeste chez elle sous une sorte de passion mystique pour Jung. Jung était son dieu, ça c'est tout à fait évident. Elle le dit, c'était son dieu, au point que quand elle rêve d'avoir un enfant avec lui, et elle pense vraiment l'avoir à une certaine époque, le fameux Siegfried, cet enfant sera un demi-dieu. Hein, ça sera vraiment le héros germanique Siegfried. Alors on a fait des interprétations sur le fameux Siegfried qui en fait était fils du roi Sigmund. Hein, Sigmund, alors bon, Freud là-dedans se retrouverait à ce niveau-là aussi, mais en fait, elle participait de cette manière à ce à quoi Jung lui aussi était sensible. Il était sensible à toute cette mythologie germanique, à tous ces éléments comme cela, héroïques qu'il y a dans le passé. Et elle avait aussi dans son histoire quelque chose qui la reliait à une sorte de forme de religiosité mystique, qui était ces fameux rabbins chassidiques qui étaient dans sa famille, dont l'enseignement avait été complètement perdu par son père à elle, par ses parents, qui étaient des juifs complètement agnostiques, assimilés en Russie, à Rostov-sur-le-Don, et qui n'étaient pas du tout religieux, et qui étaient même anti-religieux. Et elle, elle a une nostalgie, dit-elle, pendant son enfance, son adolescence, de la religion. Elle a une aspiration à cela, et elle retrouve le lien avec ses grands-pères rabbins, et donc les rabbins prophétiques. On est dans la mystique, là. Hein, et elle retrouve donc le lien avec la mystique de Jung, enfin le côté mystique de Jung, parce que Jung n'est pas religieux au sens du protestantisme de ses parents, lui aussi, de son père, etc. Il rejette même ça très tôt dans son adolescence, parce qu'il a une expérience mystique qui lui paraît dépasser tout ça, et il considère que ces gens-là n'ont rien compris à ce qui est la vraie religion, le vrai contact avec, je dirais, l'autre, ou avec le vrai Dieu. Et ça, plus tard, ce sera tout à fait ce qu'il continuera de soutenir, qu'il ne fait aucune religion ne l'intéresse, mais il a ce contact avec le grand autre, avec l'autre, à travers eh bien, toutes les religions du monde, toutes les manières d'avoir contact avec l'au-delà. Et ça, c'était quelque chose qui résonnait chez Sabina.
Il y a à ce propos-là un rêve de Jung, d'un dieu qui chie sur le monde.
Ah oui, c'était pas un rêve, oui. C'était un fantasme qu'il a eu. Justement, là, c'était oui. Ça, son expérience mystique. C'est-à-dire qu'un jour, qu'il rentre de l'école, il passe devant la cathédrale de Bâle, qui est toujours comme ça, d'ailleurs, dont le toit est magnifique, avec des tuiles dorées, enfin, des choses tout à fait... Et ça scintille sous le soleil, et là, tout d'un coup, il a une pensée. Il est absolument aux anges, et il a une pensée, tout d'un coup, qu'il réprime. Qui ne peut pas penser. Et ça le tourmente horriblement des nuits et des nuits. Et à un moment, il se dit, il faut avoir le courage de penser ça. Et cette pensée, c'est Dieu est assis au-dessus de ce merveilleux toit, et dessous son trône sort un étron gigantesque qui vient écraser le toit de la cathédrale de Bâle. Et là, il a l'impression qu'il a fait une expérience extraordinaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement la manière dont il interprète ça, lui. Adulte, hein, cette chose-là. Un freudien, comment est-ce qu'il interpréterait cela? Il dirait, par exemple, je sais pas, on pourrait dire Dieu chie sur l'Église, par exemple. C'est une manière de dire son mépris pour l'Église, l'Église de son père, par exemple. Lui, il ne voit là que l'expérience, qui est l'expérience mystique. Le fait qu'il ait pu penser une chose pareille, c'est un contact avec Dieu. C'est une conception qui n'a rien à voir, hein, rien du tout. Le sens de la symbolique n'a aucune importance, mais c'est le réel, au fond, de cette expérience qui est en jeu. Et c'est ça toute la différence entre Freud et Jung, disons.
Qu'est-ce qui pouvait être la première femme analyste?
Michel Kibal.
Entre ce père fondateur Freud, comment était née une première femme analyste? Et Jacques Nobécourt travaillait sur Lou Andrea Salomé en ayant le fantasme ou l'idée que ça pourrait bien être elle. Et cette petite note en bas de page m'a permis de le rencontrer sur ce sujet en lui disant il y en a peut-être bien une qui la précède. Et c'était donc Sabina Spielrein qui n'apparaît qu'en trois occurrences dans l'œuvre de Freud. Voilà ce qui m'a intéressé dans ce nom pratiquement donc effacé de l'œuvre de Freud à quelques occurrences près, et puis secondairement son effacement dans l'œuvre de Jung. Mmh. Un de ses apports essentiels après coup, on pourrait dire, mais même avant coup, parce que dans l'origine des mots enfantins, papa, maman, c'est pas simplement en tant que mère d'un bébé qu'elle fait ce travail, bien sûr que c'est dans ce rapport-là, mais elle le fait aussi parce qu'elle était très liée au mouvement linguistique de l'époque. Jacobson, et puis en Suisse avec Bailly, etc., elle était déjà très liée à ce qui était la linguistique structurale. Un de ses frères était psychologue linguiste, il a lui-même écrit au moins un article en rapport avec Jacobson. Donc elle était très prise dans toutes ces interrogations sur le langage, qui est proprement son engagement du côté de Freud. par le langage contre Jung qui parlait plutôt d'une pensée analogique, ce qui va lui permettre de développer ses questions sur les archétypes ensuite. Donc elle était très liée et Fonacci, qui était un phonématicien, a indiqué qu'elle était la première à avoir fait une liaison entre la psychanalyse et les théories phonématiques. Et pas seulement de son expérience de mère, mais parce qu'intellectuellement, elle était liée à tous les mouvements linguistiques de l'époque, ce qui n'apparaît pas être tout à fait le cas de Freud aussi précisément. Donc par cela, elle ouvre la question de la pulsion de mort dans son articulation à la structure du langage, et elle ouvre quelque chose qui est l'œuvre de Lacan. Le rapport de la pulsion de mort avec l'inscription dans le symbolique par l'intermédiaire du langage, c'est-à-dire le sujet de l'inconscient comme un langage, structuré comme un langage. À ce titre-là, elle est très, qu'elle le sache ou pas, elle ouvre sur l'enseignement de Lacan, à mon sens.
Est-ce que Lacan parlait de Spielrein ?
Non, Lacan, à ma connaissance, encore faux, mais à ma connaissance, il n'a pas parlé de Sabina Spielrein, alors qu'il avait tous les éléments pour le faire, parce que dans un de ses séminaires qui est sur l'éthique, je pense, il commente longuement 3 ou 4 articles de la revue Imago à propos de la question du langage, dans laquelle, à la même époque, écrivait Sabina Spielrein et se référant aux mêmes auteurs. Donc je ne vois pas comment il aurait pu lui-même ne pas avoir eu accès à ce travail de Sabina Spielrein, ce qui pose une question. Bon, je sais bien, Lacan a dit il n'y a pas de propriétaire de signifiant, donc on peut s'approprier très largement. Bon, ça pose une question sur la continuation de l'effacement d'un nom, puisque c'est quand même ça qui nous a animés, c'est l'effacement d'un nom de femme entre deux hommes. Freud et Jung, à petit détail près, et là, il me semble qu'il apparaît un effacement supplémentaire.
Février 1923, à Sabina Spielrein. Chère madame, j'ai reçu votre lettre et je crois que vous avez raison. Votre intention d'aller en Russie me semble meilleure que mon conseil de vous rendre à Berlin. À Moscou, vous pourrez faire du très bon travail avec Wolf, chez Hermatkopf. Et enfin, vous serez dans votre patrie. L'époque est dure pour nous tous. J'espère avoir bientôt des nouvelles de vous et vous prie instamment de mettre votre adresse sur l'entête de votre lettre. Ce que trop peu de femmes font. Cordialement, votre Freud.
Et alors, quand elle part en Russie en 1923, départ que Freud, finalement, accepte avec soulagement, parce qu'elle a été un peu une épine hein, pendant toutes ces années, dans la mesure où elle ne s'est pas conduite comme il aurait voulu. Il aurait souhaité que dans la déception de la trahison de Jung, elle adhère complètement à son groupe. Elle s'inscrit à la société viennoise un certain temps, mais elle refuse de rejeter complètement Jung. Elle refuse de prendre parti comme il le lui demande. Il lui demande, maintenant il est temps que vous preniez parti, on est en guerre, il faut vous mettre, choisir votre camp. Il dit, choisissez votre camp, elle ne peut pas. Elle ne peut pas choisir son camp. Et du coup, ça, Freud ne supporte pas bien. Hein, parce qu'il faut choisir son camp. On ne peut pas rester des deux côtés. Et alors, du coup, quand elle, petit à petit, ça se raréfie, enfin, du moins, on a très peu de choses sur la fin. On n'a plus que des lettres assez formelles, comme ça. Il lui dit, chère madame, cher docteur, je ne sais pas quoi. C'est très bien, vous voulez partir en Russie. Mais oui, c'est parfait. Bon débarras. On a l'impression, bon débarras. Enfin, il ne le dit pas, mais on le sent comme ça. Elle est un peu gênante. Et c'est vrai que l'itinéraire qu'elle a suivi dans ces années-là est assez curieux aussi, parce qu'on ne sait pas très bien, elle n'arrête pas de changer de lieu dans ces années avant de partir en Russie. On se demande qu'est-ce qu'elle fuit ou qu'est-ce qu'elle cherche. En plus, on a des traces dans son journal, dans ses lettres, du fait qu'elle se demande si elle ne va pas arrêter d'être psychiatre, médecin, pour faire de la musique, pour faire autre chose, pour faire de la philosophie, pour toutes sortes de choses. Elle ne sait pas comment sublimer. Elle cherche comment sublimer au mieux cette passion, cette chose qui la dépasse complètement. Et au fond, elle ne... Il semble qu'elle n'y arrivera qu'en partant, complètement, qu'en allant au-delà non pas encore du rideau de fer, mais enfin en retournant dans cette Russie qui est devenue... Enfin, elle y part en quelque sorte en missionnaire. Elle va aussi faire quelque chose de grand, d'héroïque, qui est de promouvoir la psychanalyse dans ce pays où ça n'existe quasiment pas encore.
Elle crée une maison d'enfants, elle assiste à l'interdiction en 1936 de la psychanalyse. Oui, on voit son nom apparaître encore en 1937 sur des articles.
C'est ça.
Oui.
On ne sait pas très bien quelle a été sa carrière. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, elle est retournée à un moment à Rostov-sur-le-Don, où elle a pratiqué sans doute un peu la psychanalyse, la médecine en tout cas, hein, la psychiatrie en tout cas. Elle a eu un deuxième enfant, hein, de nouveau avec son mari, et deux filles, donc en tout. Elle n'a pas eu Siegfried, donc jamais. Et cette fin tragique, parce que ça a été tragique assez rapidement avec le stalinisme, ça a été déjà tragique, parce qu'elle a perdu... son mari, elle a perdu un frère. Et bon, en 1941, lorsque les troupes allemandes sont entrées à Rostov, les juifs de la ville ont été assassinés, et elle et ses filles avec elle. On le sait maintenant. Ce qui fait que c'est vraiment un destin. Quand on le voit comme ça, d'au-dessus, comme ça, beaucoup plus tard, c'est un destin complètement tragique. Hein, c'est un destin. On se demande qu'est-ce qu'il y a. Amener au fond toute cette souffrance, toute cette ce renoncement aussi, parce qu'elle a renoncé à énormément de choses finalement. Elle a renoncé, elle aurait pu. Qu'est-ce qui l'empêchait par exemple de prendre parti pour Freud? Elle aurait pris parti pour Freud, elle aurait eu une carrière normale, elle aurait été une des femmes analystes qui entouraient Freud et qui ont fait Deutsch, je sais pas, il y en a eu quelques-unes comme ça, mais elle n'a pas pu. Hein. C'est sa passion qui l'a entraînée toujours au-delà, plus loin, à faire des choses où elle a perdu finalement son nom pendant des années. Hein. Il a fallu une sorte d'accident, en quelque sorte, pour qu'elle remonte à la surface.
Pour qu'on retrouve dans cette case. C'est comme si, alors si on écoute ce que vous dites, Nicole Kress-Rosen, c'est comme si elle n'avait jamais terminé son analyse, puisqu'elle n'a pas renoncé à la passion, elle n'a pas renoncé au féminin, quoi.
Alors, en termes freudiens, elle n'a pas fini son analyse, ça c'est évident. Hein. C'est quelqu'un qui, ou bien était incapable de faire une analyse, parce qu'elle avait une structure qui lui interdisait, une structure trop passionnée peut-être justement. Ou alors, si on se place du point de vue jungien, on est dans un autre registre, parce qu'il y a des théories justement de la fin de l'analyse complètement différente du côté freudien et du côté jungien. Ça, c'est une des choses qui m'a paru, moi, qui m'a beaucoup intéressée quand j'ai découvert ça, quelque sorte, parce que moi, Jung, je ne connaissais pas avant de commencer ce travail.
C'est une freudo-lacanienne.
Oui, c'est ça. Et donc, ce qui m'est apparu important, et peut-être important dans ce qu'est devenu Sabina Spielrein, c'est que Jung a théorisé quelque chose sur la fin de l'analyse qui serait qu'une analyse, au fond, se terminerait par une passion. La fin la plus achevée d'une analyse serait, au fond, la réalisation d'une passion. Et qu'il n'y a pas, justement, à réprimer une passion, mais à la faire se développer, la sublimer, enfin trouver une issue qui soit une issue exaltante, plutôt que de rester dans ce domaine du raisonnable, de tout réprimer en quelque sorte, qui serait la position freudienne.
Chez les freudiens, la passion serait de la résistance à la passion, à l'analyse, pardon.
Quand Freud, dans les textes de Freud sur le transfert, il y a comme cela un certain nombre de choses qui sont adressées à des femmes d'ailleurs. Hein. Ce sont des femmes qui sont alors vraiment incapables de faire une analyse parce que justement elles n'écoutent que. Alors, il dit pas leur passion, il le dit à certains endroits, mais elles n'ont des arguments que des arguments du réel. Il dit les quenelles, la soupe, etc., ce genre de choses. Le corps, en quelque sorte, hein, quelque chose qui n'est pas symbolisable, finalement. On ne peut pas faire une analyse avec des gens qui veulent absolument réaliser quelque chose de l'ordre du corps, par exemple. Il parle de ça au moment où il parle de la séduction par l'analysante, de l'analyste. Il y a des femmes qui ne veulent que ça, qui veulent séduire absolument leur analyste. Alors celles-là, elles n'entendent pas raison. Alors celles-là, il faut s'en débarrasser. Voilà. Et Jung, des années plus tard, va répondre à ça en disant, d'accord, on peut leur dire, mais ce n'est pas moi que vous aimez, c'est votre père, etc. Mais on sait bien que ça ne sert à rien. hein, de dire ça, c'est-à-dire de raisonner, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit une chose tout à fait surprenante, il dit, il faut leur dire que le véritable objet de leur amour, c'est Dieu, même si ce sont des agnostiques. Et il donne des cas où, dans ces cas-là, ça a changé quelque chose. Alors, c'est intéressant si on entend par Dieu, justement, l'autre, hein, c'est-à-dire renvoyer non pas forcément à l'histoire, la petite histoire du sujet, papa, maman, etc., mais lui faire entendre que ce qui est passion chez elle ne s'adresse pas à un être humain, mais s'adresse à l'autre, ce qui n'est pas si bête que ça, hein, ce qui est quand même une vision de la chose intéressante. Et alors quand il dit Dieu, c'est ça sa manière de dire, il faut transformer ça en une passion sublimée, c'est-à-dire faire qu'il y ait une réalisation de cette passion sur un autre plan que le plan de l'amour humain, ou la réalisation sexuelle avec l'analyste, par exemple.
Sur le plan théorique, Nicole Kress-Rosen, quels vont être les apports des uns aux autres? Parce que Spielrein, c'est la femme effacée, la femme chez laquelle on a peut-être aussi puisé une sorte d'énergie théorique.
Et il y a ce fameux texte qui s'appelle « La destruction comme cause du devenir », hein, qui est ce texte, qui est un texte qu'elle a le plus grand mal à promouvoir. Justement, il est mal accepté par Freud. Jung lui-même, qu'il a en lecture, met un temps fou à le lire, lit mal le titre. Il a cru à un moment que c'était la distinction comme cause du devenir. Enfin, il y a quelque chose qu'il ne veut pas entendre. Et puis quand elle le force absolument à le lire, ce texte, il lui dit « Ah oui, c'est drôlement intéressant, je trouve ça formidable que vous ayez les mêmes idées que moi. » Alors, il y a là quand même quelque chose qui est tout le temps la renvoyer au fond à son insignifiance, à son inexistence, hein, en tant que théoricienne. Et Freud, dans ce texte quand même, il y a quelque chose d'intéressant. C'est un texte difficile à lire, tous ces textes, comme d'ailleurs Lou Andreas Salomé, je ne sais pas si vous avez lu des textes, ce n'est pas évident, hein, ce n'est pas du Freud, ce n'est pas la clarté magnifique de Freud, mais c'est un texte qui est assez jungien dans sa forme, mais dans lequel il y a quelque chose de très intéressant qui est justement d'abord une perception du mode féminin d'aimer, qui est un mode différent de celui des hommes. Et ça, Freud le reprendra sous une autre forme, sans référence à elle, dans le texte sur le narcissisme en 1914-15, et la question de quelque chose qui peut faire référence à ce que Freud désignera plus tard comme la pulsion de mort, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du principe de plaisir, mais qui meut l'homme, qui est une sorte de désir qui peut le mener à la mort. C'est pas expliqué très clairement, mais il y a ça quand même dans le texte. Elle avait une intuition de ça parce qu'elle avait ça en elle, hein. C'était évidemment sa propre expérience qui l'a menée à ça. Et ça a été complètement écrasé, ça. Et, bon, son nom est cité 2-3 fois dans des textes de Jung, Freud y fait allusion une fois, mais jamais comme une théoricienne, hein, qui aurait apporté quelque chose de très important, au point que d'ailleurs les textes qu'elle a produits ont été complètement... Il y en a très peu qui sont traduits actuellement, hein. On ne les trouve pas. Il faut chercher dans le texte de Guibal, dans le livre de Guibal, une traduction, il y a un autre truc là, enfin bon, c'est complètement morcelé.
Quand on regarde toute sa vie, son parcours, son effacement, est-ce qu'on peut répondre à la question « Que veut la femme ?»
sans doute partiellement, justement, en ouvrant sur cette question de l'amour. Hein. Qu'est-ce que l'amour ? Pour une femme, pourquoi est-ce que l'amour peut déboucher sur une passion? Justement, la femme, ça c'est ce que Freud quand même tardivement va découvrir, elle ne veut pas la même chose que l'homme, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de la même chose, elle veut aussi la même chose, elle veut l'univers phallique ne lui est pas étranger, ça l'intéresse d'avoir les objets phalliques comme ça, mais il y a un au-delà de ça chez les femmes qu'il range lui du côté du maternel pré-œdipien. Alors, c'est une façon de dire les choses, mais ça renvoie quand même effectivement à la position narcissique, ça renvoie au rapport avec le grand autre, ça renvoie effectivement à tout ce qui est passionnel. La passion se situe effectivement non pas dans l'Œdipe, mais dans autre chose que l'Œdipe, ça c'est évident. La passion ne s'explique pas du tout par l'histoire édipienne. Il faut aller au-delà de ça pour le comprendre. Et là, donc, je crois que en refusant cette rupture avec Jung, je trouve que ça a été quelque chose de lamentable, enfin de très désolant, dire pour tout le monde, hein, pour les uns et les autres, parce que dans cette manière d'être de Jung, il y avait quelque chose, si Freud avait pu être froid par rapport à ça, quelque chose qu'il aurait pu avoir à comprendre, hein, qu'il aurait pu intégrer dans sa théorie. Or, il l'a refusé, il l'a repoussé comme folie, comme des raisons, enfin, des choses complètement sans intérêt. Or, il y avait des choses intéressantes là-dedans, et ce sont des choses qui manquent à la théorie freudienne.
Du côté du féminin.
Voilà, du côté du féminin, du côté de la passion, du côté de la psychose aussi. Hein. Dans la théorie freudienne, on n'a pas ce qu'il faut pour comprendre la psychose. Quand lui parle du président Schreber, il reste dans le moule édipien, et ça ne marche pas. Ça ne suffit pas. Sa manière d'expliquer l'érotomie ne marche pas. La jalousie, etc.
Pas de lui.
Oui, ça ne marche pas chez lui, dans la théorie freudienne stricte. Alors, Lacan a étendu ça, il a introduit la jouissance féminine, il a introduit un certain nombre de choses, tardivement aussi. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est toujours tardivement dans leur théorie que Freud, Lacan introduisent le féminin. Hein, il leur faut tout un périple pour arriver là. Mais il y a ça. Il y a ça dans Jung. Hein? Il y a peut-être que ça, mais il y a ça.
Qu'est-ce que ça veut dire, Martin Gellner, Spielreich ? Comment est-ce qu'on traduit son nom ?
Je sais que j'ai vu quelque part dans leur fameux livre que ça voulait dire « jouer sur le ton juste ». Elle a effectivement un nom qui sonne, qui résonne et qui fait des échos. Hein?
Entre des échos entre Jung et Freud.
Des échos, oui, les échos se sont peut-être arrêtés quelque temps, mais ont repris, ne se sont pas éteints puisque nous sommes là à en parler.
Spielreich, vous diriez ?
Non. Non, je ne dirais pas ça, moi. Je ne dirais pas du tout pauvre Spielreich. Moi, je crois qu'il y a quand même quelque chose dans la réalisation. Même, moi, je ne peux pas juger ça comme un échec, moi. Je ne peux pas. D'abord, maintenant, ce n'est pas un échec. Elle est triomphante, maintenant. On ne parle plus que d'elle. Partout, c'est devenu un personnage de roman extraordinaire. Mais même, après tout, un destin comme ça... qui était dans la suite de sa structure, de son désir, après tout, on ne peut pas dire. C'est peut-être un échec du point de vue d'un tel ou d'un tel. Elle n'a pas été très heureuse, elle n'a pas eu les honneurs, elle n'a pas eu une carrière formidable, mais peut-être qu'elle a eu ce qu'elle souhaitait.
Journal, 28 juin 1909. La soif d'amour, la peur de s'être pétrifié. Je revois la région ondoyante qui s'étend au nord du lac de Constance. Ses frondaisons vertes comme débordantes de sève, ses forêts de sapins, pittoresquement distribuées par lambeaux. Avec le merveilleux éclairage d'un ciel légèrement couvert. Et pourtant, j'ai toujours le cœur gros, que je me suis replongée dans l'atmosphère de la petite maison solitaire, noyée dans son tapis de verdure. Je ne pouvais ainsi complètement m'abandonner à la paix de la vie familiale. Je redoute la parfaite...
Entre Jung et Freud, Sabina Spielreich, première femme psychanalyste, par Francesca Piolo. Avec Aimé Agnel... Michel Guibal, Martine Gallard, Nicole Kress-Rosen. Lecture, Paula de Asensao, Frédéric Prévost, Jean-Marie Gallet.
Recherche discographique, Eliane Letellier. Prise de son, Emmanuel Dupuis. Mixage, Christian Keller, Monique Burguière. Réalisation, Isabelle Huel. Наколола ноженьку на трясочку. Ах, брала, брала ягодку по борочку. Брала, брала ягодку земляничку. Ах, наколола ноженьку на трясочку. Болит, болит ноженька, да не больно. Наколола ноженьку.
Cette émission a été diffusée la première fois le 10 juillet 1997 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.